Durant les jours qui suivirent, il s'occupa de détruire toute trace de son passage en ce monde. Il dépouilla l'atelier d'orfèvrerie, n'y laissant que les objets anonymes, fit cadeau de ses effets aux ordonnances et enterra ses armes dans le patio avec la même contrition que son père le jour où il avait enfoui la lance qui avait tué Prudencio Aguilar. Il ne conserva qu'un pistolet, avec une seule balle. Ursula n'intervint pas. Elle ne voulut le dissuader qu'une fois, quand il fut sur le point de détruire le daguerréotype de Remedios qu'on gardait au salon, éclairé par une lampe éternelle. « Ce portrait a cessé de t'appartenir depuis longtemps, lui dit-elle. C'est une relique de famille. » La veille de l'armistice, alors qu'il ne restait plus à la maison aucun objet qui pût rappeler son souvenir, il se rendit à la cuisine, portant le coffret qui contenait ses verres, au moment où Sainte-Sophie de la Piété se préparait à allumer le four à pain. « Allumez-le avec ça, » fit-il en lui tendant le premier rouleau de papier jauni. « Ça prendra mieux, ce sont de très vieilles choses. » Sainte-Sophie de la Piété, elle si silencieuse, si complaisante, qui ne contrariait jamais personne et jusqu'à ses propres enfants, eut l'impression qu'on lui demandait de commettre quelque chose de défendu. « C'est des papiers importants, » dit-elle.
« Rien d'important, lui répondit le colonel. Des choses qu'on écrit pour soi-même.
« Alors brûlez-les vous-même, colonel !» C'est ce qu'il fit, et sans arrêter là, il brisa le coffret avec une hachette et jeta les morceaux au feu. Quelques heures auparavant, Pilar Ternera était venue lui rendre visite. Au bout de tant d'années sans la voir, le colonel Aureliano Buendía fut stupéfait de constater combien elle avait vieilli et grossi, comme elle avait perdu son rire splendide, mais il fut également étonné par la pénétration qu'elle avait acquise dans la lecture des cartes.
« Attention à ta bouche !» lui dit-elle.
Et il se demanda si la fois précédente, quand elle lui avait dit la même chose et qu'il se trouvait à l'apogée de sa gloire, ce n'avait pas été une vision extraordinairement anticipée de son destin. Peu après, lorsque son médecin personnel acheva d'extirper les furoncles de ses aisselles, il lui demanda, l'air de n'y attacher aucune importance particulière, l'endroit exact où se trouvait son cœur. Le docteur l'ausculta, puis lui dessina un rond sur la poitrine avec un coton imbibé de teinture d'iode. Le mardi de l'armistice, le jour se leva tiède et pluvieux. Le colonel Aureliano Buendía fit son apparition dans la cuisine sur le coup de 5 heures du matin et but son habituel café sans sucre. « C'est un jour comme celui-ci que tu es venu au monde, lui dit Ursula. Avec tes yeux ouverts, tu fis peur à tout le monde. » Il ne releva pas ce qu'elle lui disait, toute son attention se trouvant mobilisée par les préparatifs de la troupe, les sonneries de trompettes, les ordres lancés qui troublaient la pureté de l'aube. Au bout de tant d'années de guerre, tous ces bruits auraient dû lui paraître familiers, et pourtant, cette fois, il sentit ses genoux se dérober sous lui et sa peau parcourue de vagues serrées, tout comme ce qu'il avait éprouvé dans sa jeunesse en présence d'une femme nue. Confusément, enfin pris à un piège de la nostalgie, il pensa que, marié avec celle-là, il serait peut-être devenu un homme qui n'aurait connu ni la guerre, ni la gloire, un artisan anonyme, un animal heureux. Ce sursaut tardif auquel il ne s'attendait pas donna un goût plus amer à son petit déjeuner. À 6 heures du matin, quand le colonel Guérinaldo Marquez s'en vint le chercher en compagnie d'un groupe d'officiers rebelles, il le trouva plus taciturne, plus absorbé dans ses pensées, plus solitaire que jamais. Ursula voulut lui jeter sur les épaules une couverture toute neuve.
« Que vont penser les gens du gouvernement ?» lui dit-elle. « Ils vont s'imaginer que tu t'es rendu parce que tu n'avais même plus de quoi te payer une couverture. »
Mais il refusa. Déjà sur le seuil, voyant que la pluie continuait de tomber, il se laissa coiffer d'un vieux chapeau de feutre ayant appartenu à José Arcadio Buendía.
« Aureliano !» lui dit encore Ursula. « Si tu rencontres là-bas le mauvais sort, promets-moi que tes pensées iront à ta mère. »
Il lui adressa un sourire distant, leva sa main grande ouverte et, sans mot dire, quitta la maison pour affronter les cris, les blâmes et les blasphèmes qui devaient pleuvoir sur lui et le poursuivre jusqu'à la sortie du village. Ursula mit la barre à sa porte, décidée à ne plus la retirer de tout le restant de sa vie.
« Nous pourrirons sur place, ici, à l'intérieur, » se dit-elle en elle-même. « Nous retournerons en poussière dans cette maison sans homme, mais nous ne donnerons pas à tous ces misérables la joie de nous voir pleurer. »
Elle passa la matinée à chercher, dans les recoins les plus secrets, un souvenir de son fils, mais ne put en trouver. La cérémonie eut lieu à une vingtaine de kilomètres de Macondo, à l'ombre d'un arbre à capoc gigantesque autour duquel devait se fonder plus tard le village de Néerlandia. Les délégués du gouvernement et des partis, ainsi que la commission rebelle chargée de remettre les armes, furent servis par un groupe de sémillantes novices en habits blancs qui ressemblaient à un envol de colombes effarouchées par la pluie. Le colonel Aureliano Buendía arriva sur une mule crottée. Il n'était pas rasé, plus tourmenté par les douloureux furoncles de ses aisselles que par l'immense effondrement de ses rêves, car il était parvenu au terme de tout espoir, bien au-delà de la gloire et de la nostalgie de la gloire. Conformément aux dispositions qu'il avait prises lui-même, il n'y eut pas de musique, ni pétard, ni carillon d'allégresse, ni vivat, non plus qu'aucune manifestation qui aurait pu altérer le caractère de deuil de l'armistice. Un photographe ambulant qui prit l'unique portrait de lui qu'on aurait pu conserver fut contraint de détruire ses plaques sans les développer. La cérémonie dura à peine le temps nécessaire pour coucher les signatures sur le papier. Autour de la table rustique disposée au centre d'une tente de cirque rapiécée, où prirent place les délégués, se trouvaient les derniers officiers demeurés fidèles au colonel Aureliano Buendía. Avant de recueillir les signatures, l'envoyé personnel du président de la République voulut lire à haute voix l'acte de reddition, mais le colonel Aureliano Buendía s'y opposa. « Ne perdons pas de temps en pure formalité, » dit-il, et il s'apprêta à signer les feuillets sans même les lire. L'un de ses officiers rompit alors le silence soporifique qui régnait sous la tente. « Colonel, faites-nous la grâce de ne pas être le premier à signer. » Le colonel Aureliano Buendía accéda à sa prière. Lorsque le document eut fait le tour complet de la table, au milieu d'un silence si pur qu'on aurait pu déchiffrer les signatures à seulement entendre les gribouillages de la plume sur le papier, la première place était encore en blanc. Le colonel Aureliano Buendía se disposa à la remplir. « Colonel, fit alors un autre de ses officiers, vous avez encore le temps de bien vous en tirer. » Sans se troubler, le colonel Aureliano Buendía contresigna le premier exemplaire. Il n'avait pas fini de signer le dernier qu'apparut à l'entrée de la tente un colonel rebelle tirant par le licol une mule chargée de deux coffres. Malgré son extrême jeunesse, il avait un aspect tout desséché, une expression résignée. C'était le trésorier de la Révolution pour la circonscription de Macondo. Il venait de faire un pénible voyage de 6 jours, traînant la mule qui mourait de faim pour arriver à temps pour l'armistice. Avec cérémonie, d'une manière exaspérante, il déchargea les coffres, les ouvrit et posa sur la table, un à un, 62 lingots d'or. Nul ne se rappelait l'existence de ce trésor. Dans le désordre de la dernière année, quand le commandement central vola en éclats et que la révolution dégénéra en une sanglante rivalité entre chefs, il était devenu impossible de déterminer aucune responsabilité. L'or de la rébellion, fondu en bloc, à leur tour recouvert de terre cuite, échappa dès lors à tout contrôle. Le colonel Aureliano Buendía fit inclure les 62 lingots d'or dans l'inventaire de la reddition et mit fin à la cérémonie sans autoriser aucun discours. Le maigre adolescent resta planté devant lui à le fixer de ses yeux sereins couleur de miel. « Que veux-tu de plus ?» lui demanda le colonel Aureliano Buendía. Le jeune colonel répondit les dents serrées. « Le reçu !» Le colonel Aureliano Buendía le lui rédigea de sa propre main. Puis il prit un verre de limonade et un biscuit que distribuaient les novices et se retira sous une tente militaire qu'on avait aménagée pour le cas où il voudrait se reposer. Une fois à l'intérieur, il retira sa chemise, s'assit sur le bord du lit de camp et, à 3h15 de l'après-midi, se tira une balle de pistolet dans le rond de teinture d'iode que son médecin personnel lui avait dessiné sur la poitrine. À la même heure, à Macondo, Ursula souleva le couvercle de la casserole de lait sur la cuisinière, étonnée qu'elle tardât tant à bouillir, et la trouva remplie de verre. « On a tué Aureliano !» s'écria-t-elle. Elle regarda en direction du patio, obéissant à une habitude qu'elle avait contractée dans sa solitude, et aperçut José Arcadio Buendía tout trempé, pluvieusement triste, beaucoup plus vieux que lorsqu'il mourut. « On l'a tué en traître !» précisa Ursula. « Et personne ne lui a fait la charité de lui fermer les yeux !» À la tombée de la nuit, elle vit à travers ses larmes, s'entrecroiser dans le ciel rapide et étincelant ses disques lumineux semblables à des étoiles filantes, et pensa que c'était signe de mort. Elle était encore sous le châtaignier, pleurant dans le giron de son mari, lorsqu'on apporta, enveloppé dans sa couverture toute raide de sang séché, le colonel Aureliano Buendía, les yeux grands ouverts de rage. Il était hors de danger. La balle avait suivi une trajectoire si nette que le médecin put lui enfiler par la poitrine et lui sortir par le dos une mèche imbibée de teinture d'iode. « Voilà mon œuvre maîtresse, » lui dit-il avec satisfaction. « C'était le seul point par où pouvait passer une balle sans toucher aucun centre vital. » Le colonel Aureliano Buendía se vit entouré de novices compatissantes qui entonnaient des psaumes désespérés pour l'éternel repos de son âme, et il regretta alors de ne pas s'être tiré la balle dans la bouche, comme il en avait eu l'intention, ne fût-ce que pour ne pas donner raison à la prophétie de Pilar Ternera. « Si j'avais encore quelque autorité, dit-il au médecin, je vous ferais fusiller sans autre forme de procès, non pour m'avoir sauvé la vie, mais pour ne m'avoir pas épargné le ridicule. » Cette défaite de la mort lui rendit en quelques heures tout le prestige qu'il avait perdu. Les mêmes qui le calomniaient en racontant qu'il avait bradé la guerre en échange d'un logement dont les murs étaient faits de briques d'or, à présent parlaient de sa tentative de suicide comme d'un geste d'honneur et le proclamèrent martyr. Par la suite, quand il refusa l'ordre du mérite que lui décernait le président de la République, même ses plus acharnés rivaux vinrent défiler dans sa chambre pour lui demander de renier les termes de l'armistice et de déclencher une nouvelle guerre. La maison se remplit de cadeaux destinés à réparer les injures passées. Tardivement impressionné par le soutien massif de ses anciens compagnons d'armes, le colonel Aureliano Buendía n'écarta pas l'éventualité de répondre à leurs désirs. Bien au contraire, il parut par moments si enthousiasmé à l'idée d'une nouvelle guerre que le colonel Guerinaldo Márquez pensa qu'il n'attendait qu'un prétexte pour la déclarer. Ce prétexte lui fut effectivement offert lorsque le président de la République refusa d'accorder leur pension aux anciens combattants, qu'ils fussent libéraux ou conservateurs, tant que chaque dossier n'aurait pas été révisé par une commission spéciale et la loi d'allocation approuvée par le Congrès. « C'est une infraction aux lois !» tonna le colonel Aureliano Buendía. « Ils mourraient tous de vieillesse à attendre le courrier !» Il quitta pour la première fois le fauteuil à bascule qu'Ursula lui avait acheté pour sa convalescence, et tout en arpentant sa chambre, dicta un message sans équivoque adressé au président de la République. Dans ce télégramme, dont la teneur ne fut jamais rendue publique, il dénonçait la première violation du traité de Néerlandia et menaçait de déclarer une guerre sans merci au cas où le versement des pensions ne serait pas décidé dans un délai de 15 jours. Sa prise de position était si juste qu'elle permettait d'envisager jusqu'au ralliement des anciens combattants conservateurs. Mais pour toute réponse, le gouvernement renforça la garde qu'on avait disposée à l'entrée de la maison, sous prétexte d'en assurer la protection, et interdit les visites, quelles qu'elles fussent. Des mesures analogues furent prises dans tout le pays à l'encontre d'autres chefs qu'on avait à l'œil. L'opération fut déclenchée au bon moment et menée d'une manière si radicale, si efficace, que 2 mois après l'armistice, quand le colonel Aureliano Buendía fut considéré comme guéri, ses meneurs les plus résolus étaient morts ou expatriés, ou avaient été définitivement ingérés par l'administration publique. Le colonel Aureliano Buendía quitta sa chambre en décembre, et il lui suffit de jeter un coup d'œil en direction de la véranda pour ne plus songer à la guerre. Avec une vitalité qu'il paraissait impossible de déployer à son âge, Ursula avait de nouveau rajeuni la maison. « Maintenant, ils vont voir à qui ils ont affaire, » dit-elle lorsqu'elle fut assurée que son fils vivrait. « Il n'y aura pas de meilleure maison ni plus hospitalière que cette maison de fous. » Elle la fit nettoyer et repeindre, changea les meubles, remit le jardin en état et sema des fleurs nouvelles, ouvrit portes et fenêtres pour qu'entra jusque dans les chambres l'éblouissante clarté de l'été. Elle décréta la fin des nombreux deuils qui s'étaient surajoutés les uns aux autres et elle-même troqua sa vieille toilette sévère contre une tenue juvénile. La musique du piano mécanique égaya de nouveau la maison. En l'entendant, Amaranta se souvint de Pietro Crespi, de son gardenia crépusculaire, de son odeur de lavande, et au fond de son cœur flétri refleurit une haine toute neuve, purifiée par le temps. Un après-midi où elle s'évertuait à mettre de l'ordre au salon, Ursula demanda au soldat qui protégeait la maison de lui prêter main forte. Le jeune commandant de la garde donna son autorisation. Peu à peu, Ursula leur assigna de nouvelles tâches. Elle les invitait à manger, leur faisait cadeau de vêtements et de souliers, leur apprenait à lire et à écrire. Lorsque le gouvernement mit fin aux mesures de surveillance, l'un d'eux resta vivre à la maison et demeura à son service pendant de nombreuses années. Rendu fou par Remedios Labelle, qui l'avait si souvent éconduit, le jeune commandant de la garde mourut d'amour près de sa croisée, à l'instant même où se levait l'aube du premier de l'an.